plume bat la campagne et va au-delà des rencontres. Plume FM a promené ses micros au Lacoduc de Pleuhermel lors des 10 ans de l'association Pollen, qui œuvre pour un développement écologique, durable, local et solidaire sur le pays de Pleuhermel. Cet anniversaire a réuni le dimanche 22 septembre beaucoup d'exposants et d'exposantes autour de l'alimentation, du jardinage, de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité, bref, de l'économie sociale et solidaire. Deux conférences ont eu lieu et Plume FM vous propose d'écouter la première conférence animée par ESEO, un centre de formation situé à l'Armor-Plage, spécialisé dans les énergies renouvelables. Dans cette conférence, il sera question d'autonomie énergétique, de fabrication de capteurs solaires ou encore de poêles bouilleurs. Il est à noter que cette conférence était appuyée par la projection de visuels et que seul le conférencier avait un micro. Aussi, il vous faudra faire preuve d'un peu d'imagination pour visualiser les images et imaginer les questions nombreuses du public qui n'ont pas pu être enregistrées. Malgré tout, comme vous pourrez le constater, les explications suffisent à suivre le fil. Je vous souhaite une bonne écoute de cette conférence sur le 102.1 ou sur le site plumefm.net.
Bienvenue. Donc déjà j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que certains d'entre vous ont des installations de panneaux solaires ici? Panneaux solaires, ok. D'autres personnes là-bas? Panneaux solaires photovoltaïques, thermiques? Photovoltaïques et les deux, ok. Est-ce que vous avez donc vous avez une certaine autonomie un petit peu Ok, pour un véhicule, pour alimenter un véhicule. Et c'est des panneaux solaires qui sont... est-ce que tu sais un petit peu comment ils sont branchés? Est-ce que c'est, ça charge des batteries? Ok, très bien. Et sinon, autoconsommation. Donc ce que tu produis par tes panneaux photovoltaïques, tu le consommes immédiatement. Merci. Eh bien, j'ai donc ma prochaine question, c'est est-ce que certains d'entre vous pensent qu'on va pouvoir se passer du nucléaire? Oui? Vous pensez? Ok. Donc vous pensez qu'on pourrait se passer du nucléaire? Vous pensez que c'est possible? D'accord. Est-ce que vous pensez que en remplaçant le nucléaire par des énergies renouvelables, ce serait la solution? Non? Ok. Ça marche. Bon, moi, pendant ma conférence, mon objectif, c'est de vous montrer un... Parce que c'est souvent, c'est comme ça qu'on aborde le sujet énergétique en France. Et du coup, mon objectif, là, c'est de vous montrer un autre angle d'approche que l'idée de remplacer ou de penser uniquement... Enfin, de penser central, c'est-à-dire avec le réseau central de production nucléaire et puis toutes nos centrales. Donc du coup, on va faire un petit tour de la question. Sur ma présentation, c'est l'objectif. En deux mots, qu'est-ce que consomment des appareils qui ont nécessairement besoin d'électricité, purement de l'électricité pour fonctionner? On le voit ici, l'objectif, c'est de faire vraiment un rapport avec l'énergie que nous, on connaît, qu'on maîtrise, c'est enfin, un rapport énergie humaine, et du coup, avec une seule production simple qu'on connaît, hein, qui est notre force personnelle. Ça, c'est mon indicateur qui va nous suivre tout du long. Eh bien, on arrive à faire, à produire de l'électricité pour 26 ampoules à LED ou pour 3 ordinateurs portables. Voilà. Instantanément. Ils pédalent et instantanément, les lumières sont allumées ou les ordinateurs sont allumés. Voilà. C'est la puissance instantanée que produit le cycliste, là, peut alimenter tout ça. Voilà. Maintenant, on va faire un autre scénario. On n'a pas mis des ampoules à LED ou des ordinateurs ou des télés ou de je ne sais quoi, enfin des éléments électroniques. On a utilisé l'électricité pour faire de la chaleur. Et voilà ce qui se passe. Donc du coup, notre petit cycliste, eh ben, finalement, il ne peut plus faire grand-chose à lui tout seul. Donc il va falloir qu'on mette là 17 cyclistes pour pouvoir alimenter notre radiateur. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux éléments-là qu'on a identifié. Donc, en gros, on a notre unité qui va nous suivre tout du long. La question, c'était, est-ce qu'on va pouvoir remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables ou est-ce qu'on va pouvoir se passer du nucléaire ? Eh bien, en gros, on va faire une petite explication de voir qu'est-ce qui est possible à notre échelle, parce qu'à grande échelle, on ne peut rien faire que de brandir des drapeaux. L'objectif, là, c'est de savoir, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, notre cycliste, c'est notre unité énergie qu'on connaît. Donc, voilà ce qu'il peut faire. Et 26 ampoules à LED ou 3 ordinateurs. La différence que je fais entre ces deux diapos, vous l'avez vu, donc d'un côté, on a besoin d'électricité spécifique. Donc voilà, télé, écran, voilà, ça peut être des chargés des téléphones, ça peut être une ventilation, donc tout ce qui n'est pas chaleur, ça consomme peu d'énergie. Tout ce qui est chaleur consomme énormément d'énergie. Donc pourquoi est-ce que je vous montre je fais cette comparaison ? On en vient tout de suite à l'habitat, parce que comme je vous disais, l'objectif c'est de parler de quelque chose qu'on peut nous changer à notre échelle. Donc un habitat, c'est 6% de cuisson, 64% de chauffage des locaux, 12% d'eau chaude sanitaire et 18% d'électricité. Est-ce que vous avez remarqué que sur ces trois besoins-là, c'est uniquement de la chaleur ? Et que beaucoup de nos maisons en France, hein, de ce qui a été fait dans le parc immobilier ou appartement, utilisent de l'électricité pour faire cette chaleur. Et du coup, on en revient aux diapositives qu'on a vues juste avant. Eh bien, on a besoin d'un paquet de cyclistes pour aboutir à ces besoins. Tout ce qui est chaleur consomme énormément d'électricité. Souvent, on dit, oui, mais on ne peut pas rendre une maison autonome en électricité. Parce qu'on a toujours la vision que notre maison consomme énormément d'électricité. Alors que là, on constate que tout simplement, l'électricité est une part faible. Mais dans cette part-là, qu'est-ce qu'ils mettent dans les statistiques ? Dans la part qui est en bleu, là, d'électricité pure, ils mettent quoi dans les statistiques, à votre avis ? Concrètement, les lumières ? Frigo, informatique, électroménager. Est-ce qu'on peut détailler l'électroménager ? Eh ben, j'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux-là, lave-linge, lave-vaisselle. Ça utilise de l'eau chaude. Ouais, exactement. Donc on pourrait encore tailler dedans pour sortir le lave-linge, lave-vaisselle, par exemple, qui utilise 90 à 95% de son énergie de tout un cycle pour faire de l'eau chaude. Pour laver, il consomme pas. C'est un moteur qui tourne. Un moteur qui tourne consomme peu d'énergie. Donc pour faire vraiment son rôle de laver le linge, il consomme peu d'énergie. Par contre, pour faire l'eau chaude, eh bien, à nouveau, il consomme énormément d'énergie. Le sèche-linge, c'est uniquement de la chaleur électrique pour chauffer. Et en plus, l'évaporation de l'eau crée un effet frigo naturel qu'il faut combattre, etc., etc. Donc c'est très énergivore. Donc l'eau chaude. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de produire l'eau chaude dans notre lave-linge ? Alors, l'eau chaude, on va voir comment on la produit. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de fabriquer notre eau chaude dans le lave-linge ? Il n'y a aucune raison. C'est juste par confort. On appuie sur le bouton et comme ça, tout se fait automatiquement et on ne s'en occupe pas. Maintenant, on va pouvoir le faire quand même en amenant de l'eau chaude. C'est juste que l'eau chaude qu'on va amener, on va faire en sorte qu'elle soit à bonne température, à la température souhaitée. Donc voilà, on va revenir un peu dans le détail des solutions techniques. Mais là, déjà, ça nous donne une idée de la part réelle d'électricité qu'on a besoin pour notre maison, qui est finalement très faible, et de la chaleur. On sait faire. Tout simplement, on craque une allumette, c'est de la chaleur. On frotte les mains, c'est de la chaleur. Il n'y a pas besoin de produire cette chaleur à 500 km d'ici, la faire parcourir sur des lignes très haute tension à 400 000 volts, puis ensuite ramener ça à notre maison, etc., avec tous les coûts et les problématiques que ça engendre. La chaleur, on sait le faire. Petite chose, tant qu'on y est, sur le rendement d'une centrale nucléaire, depuis sa production, sans parler du combustible qui a été cherché dans un autre, qu'on est allé chercher dans un autre continent, tout ça, mais de la centrale elle-même, lorsqu'elle va produire, donc elle fait bouillir de l'eau, hein, c'est tout simplement, on fait bouillir de l'eau, on fait tourner une turbine, hein, c'est tout simplement ça, une centrale nucléaire. Donc une idée du rendement entre l'énergie dégagée par le nucléaire et l'énergie réellement obtenue à la maison à la prise électrique. Quelle déperdition alors ? Quelle déperdition si on veut parler plutôt dans l'autre sens ? 70% de déperdition ? Ça, c'est au pied de la centrale. Au pied de la centrale, elle a déjà mis la centrale 70% de son énergie dans la chaleur, voilà, et elle a récupéré uniquement 30% pour fonctionner. Donc bref, arrivé à la maison, vous êtes environ entre 10 et 15% de rendement pour faire du chauffage électrique. Quand on est dans ce cas-là. Alors si on était dans ce cas-là, ça pourrait être discutable. Là, on peut discuter, dire oui, nucléaire, pourquoi pas, c'est intéressant. Voilà. Mais si on en fait ça, du nucléaire, là, ça ne va pas du tout. Donc voilà. Et juste pour comparer, un poêle à bois, c'est quoi comme rendement par rapport, là, on vient de dire 10-15% pour le 80% par exemple. ou granulés, voilà, on est sur des ratios 70-80%. On compare 70-80% pour une énergie qui est liée à de la biomasse, qui est zéro CO2, qu'on maîtrise, à une énergie de technologie très poussée, qui a fait 500 bornes pour venir chez nous, tout ça, à 10 ou 15% de rendement. Voilà. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle. Donc voilà, en deux mots, maintenant, on a vu la quantité de chaleur qu'on pouvait consommer avec une maison. Et là, maintenant, on se rend compte que bon, si les maisons étaient équipées de chaudières, je ne sais quoi, écologiques, bois, tout ce qu'on veut, le problème ne se poserait pas. On dirait, bah oui, bah très bien, la chaleur qu'on a vue juste avant sur le graphique, on la produit avec des chaudières locales, bois, etc., ou solaire thermique, mais pas avec l'électricité, donc pas de problème. Sauf qu'en France, 30% des maisons sont équipées de chauffage électrique. Et 50%, enfin des maisons et du tertiaire, tout compris, résidentiel, tertiaire. 30% chauffage électrique et 50% en chauffe-eau électrique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une maison classique. Et si on compare avec une maison qui aura enlevé ses radiateurs électriques, on va être déjà 6 fois inférieur. On n'a pas isolé encore, hein. On est vraiment juste sur le changement de technologie. Donc ça donne quoi en centrale, l'équivalent centrale maintenant? On a 56 réacteurs. Et bien, il y a 7 réacteurs qui fonctionnent depuis 60 ans, H24, pour faire juste de l'eau chaude dans les petits ballons électriques. 7 réacteurs. Et puis, pour faire du chauffage, bien, en plein hiver, voilà les réacteurs qui font du chauffage électrique uniquement dans les maisons et le tertiaire, résidentiel, tertiaire. C'est pas un constat d'échec, ça. C'est un constat qui nous permet d'agir, parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est à notre échelle. C'est à notre échelle, c'est nos habitats, c'est nos locaux commerciaux. Ici, c'est du tertiaire, par exemple. Donc là, il y a des radiateurs électriques. Voilà, donc on y est. Donc c'est ça, c'est à notre portée. Parce que ça, toute personne artisan, plombier chauffagiste ou électricien, sait maîtriser ça. On n'est pas à l'échelle de la centrale, on est à l'échelle de la compétence locale. Voilà. J'ai commencé en vous demandant, est-ce qu'on va pouvoir remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables? Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est de considérer que le problème est multiple, enfin en tout cas le sujet est multiple, et donc on ne pourra jamais vraiment le raisonner en disant je switch. Littéralement d'un jour sur l'autre ou d'une année sur l'autre à une autre énergie. En effet, ce sera en général pas possible. Sinon, je pense qu'on l'aurait déjà fait. Donc, du coup, c'est assez multiple. Donc, voilà. En gros, ça nous permet de avec les différentes questions, de continuer sur le sujet de base. On a parlé énergie, mais bien sûr, quand vous avez vu chauffage, il va falloir déjà isolé pour réduire la part de chauffage. Donc on avait 60% de chauffage. Si on isole, on peut la réduire par 2 ou par 4 même, si on isole bien la maison. Voilà. Et puis ensuite, techniquement, comment faire pour que sa maison soit bioclimatique? Isoler, ça ne suffit pas. On le sait bien, parce que dès qu'il y a du soleil, ça va surchauffer. Quand il n'y a plus de soleil, il va faire froid à nouveau, parce que le renouvellement d'air fait qu'on va ramener de l'air froid, pas de masse thermique. Donc c'est pas bon. Il faut toujours ouvrir sa maison au soleil, qui est la première chaudière de l'habitat, hein. C'est les vitrages, c'est le soleil, et il faut la stocker. Voilà. Donc c'est un peu les trois grands éléments, isoler, ouvrir et stocker. Donc, si on isole, on va pouvoir réduire le chauffage, et puis en plus, si on apporte du soleil, on va pouvoir encore réduire le chauffage utilisé avec des chaudières. Voilà. Donc on va vraiment réussir à réduire grâce à la technique bioclimatique qu'on a vue sur le schéma juste avant. Donc maintenant, techniquement, ça y est, vous avez déjà isolé, vous avez mis plus de vitrage au sud, sud-est ou sud-ouest. Dès qu'on commence à être à l'est ou à l'ouest, ça devient plus des déperditions que des apports. Donc voilà, on a ajouté des vitrages et on a mis aussi de la masse thermique. Si on a une maison tout en bois, par exemple, on va surchauffer, on va ouvrir les fenêtres. Et puis quand le froid va revenir, hop, on va refermer les fenêtres, mais la maison n'aura pas capté de l'énergie. Donc à nouveau, il va falloir refaire un feu de bois ou réchauffer. Vous n'avez pas toujours possibilité d'ouvrir des vitrages. Créer des faux vitrages. En gros, ça, c'est un récupérateur d'énergie, un panneau solaire thermique, qui permet, quand on fait du chauffage solaire, hein, parce que là, on parle chauffage solaire, qui permet de compenser le fait qu'on n'ait pas assez de vitrage. Par exemple, une maison ancienne qui a peu de vitrage, en mettant du chauffage solaire, si on met 12 mètres carrés de chauffage solaire, c'est comme si on avait ouvert des grandes baies vitrées de 12 mètres carrés. avec un avantage supplémentaire, c'est que nous, si on ouvre des baies vitrées, ben, il va falloir qu'on stocke suffisamment l'énergie solaire. Ça va souvent être un peu plus difficile à gérer, donc peut-être surchauffe dans la maison, alors qu'un chauffage solaire, il va tout de suite capter l'énergie pour la stocker dans un ballon thermos. Et ce ballon d'énergie qui est comme une batterie va pouvoir ensuite restituer ça à la maison au moment où la maison devient froide à nouveau. Voilà, donc on va vraiment bien déphaser. Donc voilà, juste quelques chiffres. 50% des besoins énergétiques qu'on peut vraiment littéralement couper, c'est de l'expérience. Hein, c'est ça, c'est un chantier qu'on a fait en 2012. Et donc l'expérience, c'est que la chaudière de la personne, il a divisé par deux sa consommation. Voilà, littéralement. Et comment dire, en chauffe-eau solaire, c'est 70% environ de l'eau chaude sanitaire qui est prise par le solaire. Il ne reste plus que 30% pour de l'électricité ou du gaz ou la source d'appoint. Là, c'est sur une toiture terrasse. On trouve toujours des solutions. En effet, il y avait là aussi la notion des orientations de toiture, tout ça. Parfois, ce n'est pas propice du tout et on n'y arrivera même juste pas du tout à mettre des panneaux solaires. Ça arrive, mais souvent, il y a des solutions. En toiture sur le pan incliné, sur le pignon, sur un mur droit, on va mettre comme des ombrières. Une toiture terrasse sur un garage attenant ou dans le jardin, on fait un petit un support ou même un genre de petit cabanon de jardin. Voilà, il y a des solutions. Oui, mais on arrive à les traiter en envoyant en souterrain les canalisations. C'est des tuyaux. Dans le cas du solaire thermique, c'est des tuyaux. Donc c'est un tuyau aller, un tuyau retour. On l'isole dans des gros isolants en mousse et dans des gaines de chantier classiques. On met ça dans une tranchée et puis c'est ce qui... Non, c'est de l'eau. Les panneaux, c'est de l'eau. Alors, certains vous diront, c'est un fluide caloporteur. L'eau est un fluide caloporteur. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un additif qui est de l'antigel. Donc voilà. Donc c'est du glycol. On dit que c'est du glycol, mais non, c'est de l'eau à laquelle on a ajouté un antigel qui est du glycol. Il y a toujours des déperditions. Elles sont faibles, mais plus il y a de tuyaux, plus elles sont conséquentes. Alors, solution technique, on continue. On a parlé de chauffage solaire et de chauffe-eau solaire. Et en fait, la solution, c'est le bois après. Le bois, alors nous, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait, nous. Voilà, je voulais présenter avant techniquement les choses, mais en gros, poêle bouilleur, c'est une petite chaudière à bois de salon, c'est un poêle à bois classique, qui fait que quand vous faites du feu de bois, ça produit aussi de l'eau chaude. De l'eau chaude pour l'eau sanitaire et pour le chauffage. Donc 82% du besoin énergétique, on l'a vu sur le camembert tout à l'heure, c'est toute la besoin de chaleur qui peut couvrir. Cuisson, chauffage et eau chaude sanitaire. Et ou alors 100% des besoins de chaleur. En général, il peut produire tous les besoins de chaleur. Donc le photovoltaïque, venons-en. Donc là, on a balayé les deux solutions, solaire thermique et poêle bouilleur, les plus directement exploitables pour apporter l'autonomie en chaleur. Et l'autonomie maintenant en électricité qui reste. Il nous reste à combien de pourcents sur les besoins de la maison en électricité? 16 ou 18%. Si on enlève l'eau chaude du lave-vaisselle ou du lave-linge, eh bien, on arrive facilement à 15%. Entre 12 et 15% des besoins de la maison qui sont en électricité pure. Il faut savoir qu'avec le photovoltaïque, on peut être autonome partiellement ou totalement. On peut faire de l'autoconsommation. 4 panneaux uniquement permettent de faire de l'autoconsommation ou de l'autonomie partielle. Et puis, à partir de 9 panneaux, on peut déjà être autonome en énergie. Voilà. Et 12 panneaux, si vraiment on a envie d'apporter encore plus d'énergie à sa maison, selon si c'est une maison... avec beaucoup d'habitants ou autre chose, mais à partir de 9 panneaux, on peut être 100% autonome en électricité. Photovoltaïque et thermique. Eh bien, dans le thermique, on a parlé chauffage, et dans le photovoltaïque, on parle électricité. Le photovoltaïque, c'est un panneau solaire qui est à base de silicium, et exposé au soleil, il produit de l'électricité. Alors que le chauffage solaire ou le chauffe-eau solaire, c'est une vitre, des tubes derrière, on chauffe de l'eau, et c'est cette eau-là qu'on va faire bénéficier à la maison. Soit on met une batterie électrique, comme une batterie de voiture, hein, c'est le même type, on stocke de l'électricité, soit on autoconsomme immédiatement. Donc déjà, si vous avez toute personne qui a des locaux commerciaux, mettez du photovoltaïque, ça se rentabilise en 7 ans, 8 ans. C'est extrêmement cohérent parce que à partir du moment où le soleil se lève, c'est le moment où vous arrivez dans vos locaux et qu'on allume les ordinateurs, s'il y a des lumières, des choses comme ça. Un panneau solaire, il va perdre 20% de son rendement. Non, même pas. Je crois que c'est 10% de son rendement au bout de 30 ans. Quoi. C'est vraiment faible. Et c'est une des technologies qui est la plus fiable aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de pièces en mouvement, il n'y a pas besoin de faire de maintenance, de choses comme ça. Et sur l'histoire du photovoltaïque, il y a eu très peu de problèmes. Hein. C'est qu'ils ont beaucoup médiatisé les problèmes parce que, bon, il y a eu quand même beaucoup de lobbying anti-photovoltaïque aussi. Donc, eux, ils ont œuvré ils ont mis des sous pour communiquer sur les problèmes. Voilà, faut être conscient de ça aussi. Mais nous, c'est ce qu'on voit. Bon, bah, on prend l'information, on se dit, oh là là, il y a des panneaux qui brûlent ou il y a des, telle ou telle chose qui se passe. C'est l'information qui, bah, voilà, qui nous a été envoyée. Et donc voilà, faut savoir qu'il y a eu beaucoup de lobbying, en tout cas anti-photovoltaïque. Et ça reste, mine de rien, dans les mœurs. Enfin, voilà. Du coup, on parlait des solutions techniques et puis bien sûr une technique de gestion spécifique, parce que c'est pas le tout de mettre des technologies, il faut aussi bien les gérer. Et du coup dans ce qui va être l'aspect de la chaleur, eh bien on va toujours être sur une méthode spécifique de gestion de l'énergie et donc voilà, c'est primordial pour pouvoir faire bien les choses. Donc Ezeo, c'est un centre de formation. Donc moi je suis consultant en énergie renouvelable, et du coup Ezeo depuis 2010, donc j'ai fondé Ezeo, c'est l'objectif de transmettre l'autonomie énergétique et d'apporter des solutions techniques pour que chacun puisse installer ses propres systèmes de panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, poêles bouilleurs, etc. Et donc en 2010, j'ai créé un panneau solaire qu'on peut fabriquer soi-même. Donc c'est un panneau solaire thermique vraiment qu'on peut fabriquer de toutes pièces par soi-même. Et en 2013, un poêle bouilleur. Donc voilà, l'objectif, c'est pour ça un peu que je vous ai déroulé ça dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, à force de réfléchir à l'autonomie énergétique, eh ben, la solution qui est venue comme une évidence, c'est déjà de traiter la chaleur de la maison. Et pour traiter la chaleur, ben, l'idée, c'était d'avoir la maîtrise, d'avoir la main sur la production, sur la fabrication des produits qui nous permettaient d'atteindre cette autonomie. Donc, c'est-à-dire le solaire thermique et le poêle bouilleur. Donc avec le solaire thermique et poêle bouilleur, on l'a dit, on peut être 100% autonome sur toute la partie chaleur de la maison. En fait, on fait des ateliers spécifiques, des ateliers de dimensionnement projet. Et ces ateliers-là, c'est sur une matinée, c'est trois personnes. On passe sur le projet de chacun, on passe environ une heure sur le projet de chacun. Et puis là, on sort une feuille de route, en gros, des besoins, des implantations, comment faut dimensionner, quel type de technologie faut mettre en place. Voilà, c'est l'objectif vraiment en un créneau court de temps de réussir vraiment à défricher un peu le sujet. Donc voilà, donc en gros depuis 2010, là on est à Lorient et puis on accueille des personnes qui viennent de toute la France pour fabriquer leurs panneaux solaires, leurs poêles à bois et apprendre à installer tous ces systèmes. Donc s'il y a des formations autour du photovoltaïque, des formations autour du chauffage, donc apprendre à souder des tubes, apprendre à raccorder des fils électriques et gérer un tableau électrique, enfin tous ces domaines-là qui nous font peur, qui font qu'on ne fait pas le pas vers l'autoconstruction de ces systèmes. Souvent on va être à l'aise de faire de la maçonnerie ou de faire quelque chose chez nous il y a pas mal d'éléments qui nous font pas peur, mais en général la plomberie, l'électricité, les gens disent oula, ça c'est pas fait pour moi. Donc dans ces formations là l'objectif, c'est de démystifier toutes ces notions là et puis voilà, donc ce sera toujours l'isolation en premier à vérifier. Maintenant on n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais il faut se forcer un peu parce que c'est vrai que souvent on dit ah bah non, mais là ça va être trop compliqué, faut pas que j'y touche, ça c'est déjà fait, il y a une belle tapisserie. Ouais, mais globalement les plus grosses économies vous les ferez sur l'isolation. Et même parfois le sol, certains refont leur sol, tout ça, mais ils oublient d'isoler leur sol. Je vois tellement de chantiers, même de gens qui sont sensibles à l'écologie et sensibles à l'habitat bioclimatique et voilà, la nécessité d'être autonome, et ils passent à côté parfois de choses primordiales. Donc isoler le sol au maximum, isoler les murs, la toiture le plus possible. Parfois, ce n'est pas possible. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. J'ai dit qu'il fallait explorer et se forcer un peu pour être sûr qu'on a bien essayé au moins d'isoler. Voilà, c'est ça. Donc si c'est pas possible, si tu as une hauteur de plafond qui est pas terrible et que ton sol il est tout fini, voilà, tu vas pas rentrer dans des travaux d'isolation sur le sol fini. Par contre, si c'est une maison que tu achètes qui est humide et tu as des travaux généraux à faire, tu vas casser la dalle. Et tu vas refaire un système de drain, tu vas refaire une dalle isolée et tu vas reprendre ça proprement. Parfois, il ne faut pas faire de la récup, parfois il faut aller franco. Donc voilà, donc c'est ce que je veux dire. Donc rapidement, l'isolation, c'est ça qui est à explorer en tout premier. Et ensuite, eh bien, on va apporter les systèmes énergétiques. Et par rapport à la question que j'avais tout à l'heure sur le chauffage électrique, donc oui, l'isolation, bien sûr, les vitrages, si vous pouvez. Mais au final, une fois que vous avez exploré cette partie-là, techniquement, ça va être de créer un réseau de radiateurs à eau. Et là, quand on a un réseau de radiateurs à eau, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut mettre tout type d'énergie dessus. On peut même avoir un appoint électrique sur un système poêle bouilleur, par exemple, qui fait que si on n'a pas fait de feu de bois, ben, y a une résistance qui fait que ça distribue. Vu qu'on a centralisé, on a un ballon et ensuite on dispatche, et ben, on peut avoir une seule résistance électrique bien régulée qui envoie, on va dire, vraiment sur une... On a bien parlé d'électricité étant une grosse problématique, donc on va l'utiliser en secours. En secours, pas en chauffage permanent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut miser sur le poêle bouilleur sans se dire, bah ouais, mais si je fais pas de feu de bois, ma maison, elle est, ça y est, c'est fini, elle est plus habitable. Non, on a toujours cette possibilité d'avoir un appoint. Voilà. Mur chauffant, c'est très bien. Si vous pouvez pas faire de plancher chauffant et que vous pouvez par contre remettre en question certains murs, certaines cloisons, vous allez cloisonner. Par exemple, vous avez une grande pièce, vous dites, ben non, moi je veux faire une chambre. Et ben le cloisonnage, vous allez en profiter, au lieu de mettre du placo classique, vous allez mettre du placo tubé. C'est-à-dire que vous allez, ces plaques-là vont rayonner de la chaleur. Et donc l'idéal, c'est de faire un maximum de surface d'émission de chaleur. Parce que plus vous avez de surface, comme un plancher chauffant, plus vous pouvez travailler avec des températures basses. Ce qui vous permet de travailler du chauffage solaire facilement. Voilà. Et de consommer moins. Eh bien non, en effet, il faut combiner. On a parlé tout à l'heure, on a soulevé tout à l'heure le fait de faire attention à ne pas remplacer littéralement, on doit utiliser une globalité. Donc on est sur de l'énergie, il faut combiner les énergies. Du chauffe-eau solaire par exemple, si tu n'as pas pu mettre de chauffage solaire, chauffe-eau solaire et poêle bouilleur, et ça te permet tout l'été, toute la mi-saison d'avoir de l'eau chaude sanitaire en permanence sans avoir recours au poêle bouilleur. Sur des toutes petites périodes, par exemple pendant 2-3 jours, là, fin août, il n'y avait pas de soleil, il faisait froid et tu n'as pas envie de faire du feu de bois, tu as la résistance électrique, donc on a dit c'est du secours l'électricité. On ne le bannit pas à 100%, on le bannit à 99%. Et du coup, le poêle bouilleur, il intervient à partir du moment où c'est la saison où on a aussi tendance à avoir besoin de chauffer aussi la maison. On produit, on stocke. Hein. Pour le chauffage solaire, c'est pareil. Là, c'est de l'eau chaude sanitaire. Mais pour le chauffage solaire, c'est pareil. On produit, on stocke. Et ensuite, on va prendre sur le ballon, selon certains piquages, on va prendre de l'eau qu'on va amener dans les radiateurs. Si on veut vraiment se passer des pompes de circulation, on peut le faire. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une contrainte que le ballon doit être plus haut que le panneau. Donc dans beaucoup de cas, même des personnes qui étaient vraiment de manière fervente défenseur du thermosiphon, et bien quand on a commencé à traiter la chose en se disant ok, on va faire du thermosiphon, le thermosiphon c'est l'eau chaude monte et du coup on utilise l'ascension de l'eau qui a chauffé pour l'amener directement dans le ballon. Donc on travaille là-dessus, sur l'aspect naturel de la circulation de l'eau quand elle est chauffée. Donc voilà, et dans beaucoup de cas, on a abandonné en cours de route pour partir sur de la pompe. Alors les pompes aujourd'hui, elles consomment entre 5 et 10 watts. Elles consomment moins que votre box internet. C'est qu'à un moment, une pompe, ça vaut 100 euros. Moi j'ai vu des projets, les personnes qui insistaient, ils voulaient faire machin, fallait faire un socle en béton en hauteur, etc. Fallait casser une cloison, ça devenait infernal. J'aurais dit, attends, tu veux pas mettre 100 euros dans une petite pompe, ça va tout changer. Et finalement, il a dit, ok, allez. Il était en train de remettre en question toute sa maison pour pouvoir faire du thermosiphon. Le thermosiphon, c'est limite, on construit la maison autour du système. C'est voilà, une installation de chauffe-eau solaire. En termes de nombre de panneaux, il faut compter environ 1 mètre carré par personne. Et puis, en termes de prix, une installation de chauffe-eau solaire, on va être à entre 800 et 1000 euros le mètre carré, en gros, si on fait tout le ratio. Voilà. Donc, un chauffe-eau solaire pour 4 personnes, 300 litres, on va être dans les 3500, 4000 euros, en le faisant soi-même. Ouais. En le faisant faire, il y a encore un peu d'aide, tout ça. On doit arriver à peu près sur les mêmes ratios, 4500, un chauffe-eau solaire posé. C'est un peu plus cher, mais c'est comme il y a encore des aides sur le chauffe-eau solaire, il n'y a plus d'aide sur le photovoltaïque, par exemple. Donc voilà, plus ça va aller. De toute façon, tout le monde attend qu'il n'y ait plus d'aide, hein, dans le monde du bâtiment, parce que les aides, on sait que c'est ce qui crée énormément de... Enfin, que c'est ce qui freine finalement plus. On s'en est rendu compte depuis qu'il y a les aides. Le développement des énergies renouvelables, c'est freiné, en fait. Donc, nous, on le voit, hein, réellement. Les gens, ils sont super motivés, ils viennent, ils veulent faire. Et puis, à un moment, ils s'arrêtent et ils disent « Ouais, mais si je peux avoir des aides... » Mais en fait, voilà, et le projet se fige. Ils vont chercher un endroit à un autre, puis finalement, ils n'y arrivent pas, c'est trop compliqué. Puis, ils s'arrêtent parce qu'ils se disent « Bah, je ne vais pas le faire si je n'ai pas d'aide, mais d'avoir des aides, c'est compliqué, donc bah, je ne fais rien. » Et on le voit régulièrement. Donc voilà, on fait partie de ceux qui espèrent... que demain, on ait un système qui soit moins subventionné et du coup, ça permettra de redonner de la fluidité dans le développement des énergies renouvelables. En deux mots, comme je vous disais, donc nous, depuis 2010, notre objectif, c'est de diffuser un savoir-faire et du coup, d'apporter via le fait de diffuser le savoir-faire, qui est un effet tache d'huile qui se crée, qui fasse qu'il y ait de plus en plus de monde qui ait la compétence et qui se transmette la compétence, etc. etc. C'est un effet exponentiel. Une personne qui connaît peut sensibiliser et donner envie à 10 autres personnes qui vont, elles, le faire pour 10 autres personnes. Donc, c'est un effet vraiment littéralement exponentiel. Donc, par le savoir-faire, notre but, c'est vraiment que ça puisse déclencher beaucoup plus les choses. Parce qu'il faut savoir que depuis 15 ans, l'État a investi des milliards dans les énergies renouvelables. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à la vitesse où on développe le chauffage solaire, les chauffe-eau solaires, on installe que 200 000 mètres carrés par an. 200 000 mètres carrés, c'est rien du tout. Il faut savoir que l'objectif qui a été évoqué, par exemple, en Suisse, il n'y a pas si longtemps, était évalué à 2 mètres carrés par personne. On se dit 2 mètres carrés par personne sur une maison, très bien. Ça paraît cohérent. On est 4 dans la maison, on a un petit chauffage solaire. On a 8 mètres carrés sur la maison. C'est une petite installation, 4 panneaux. Eh bien, ça voudrait dire, pour chez nous, 140 millions de mètres carrés de panneaux solaires. Et on en fait 200 000 par an. J'ai fait mon petit calcul, il faudrait 850 ans pour parvenir à ce résultat. Eux, ils voulaient le faire pour 2035. Donc 15 ans, alors que nous, il faudrait 850 ans. Donc la planète a eu le temps un petit peu de changer d'ici là. Donc en gros, par la formation, c'est pour ça que je faisais cette petite digression, pour moi, c'est la manière de diffuser beaucoup plus grandement les énergies renouvelables plutôt que de compter sur le système actuel. Voilà, depuis 2010, on a eu du monde qui est venu en formation et on a fait des panneaux solaires, beaucoup pour des collectivités aussi. On a équipé la cuisine centrale de Lorient qui fait 2000 repas par jour et qui produit toutes les préparations alimentaires, les soupes, etc. grâce aux panneaux solaires thermiques autoconstruits. Et ils ont été construits par les techniciens de la ville et aussi par les ZAT de l'Armor-Plage, les panneaux solaires. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a une technologie locale qu'on peut fabriquer à souhait. Et puis bien sûr, bah, c'est du fuel et du CO2 économisé chaque année, c'est évident. Donc en gros, oui, c'est ça que je voulais en venir sur un petit peu ce qu'on fait. Je vous ai fait la présentation orale. Donc l'atelier dimensionnement projet, c'est un peu le premier... c'est un peu la première chose qu'on fait, c'est pour vraiment être sûr que la personne elle se lance pas dans un projet qui soit mal dimensionné ou mal pensé. Faut savoir que la plupart du temps aujourd'hui, quelqu'un qui veut installer ses énergies, il va voir un artisan. L'artisan, il a été formé essentiellement à la sécurité et aux normes. Moi, j'en ai fait les formations Cali-PV, on a fait du Cali-Sol, on a fait les qualifications. Eh bien, en fait, on est formé aux certifications, c'est-à-dire aux normes, savoir quelle norme est appliquée à telle chose, et aux normes de sécurité. Donc, c'est très bien. Hein. Mais pour ce qui est de l'étude, de l'efficience d'une installation bioclimatique, eh bien, non, on n'est pas formé qu'en artisan. Par contre, la plupart du temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont allés voir ces personnes-là, parce que c'est les seules personnes qui étaient qui pouvaient être de bons conseils. Sinon après c'était les bureaux d'études et les bureaux d'études c'était essentiellement c'est plutôt pour des gros bâtiments. Donc bref, on s'est retrouvé avec des installations qui ont pour beaucoup été complètement surdimensionnées ou sous-dimensionnées ou non fonctionnelles depuis X années. Voilà. Donc bref, l'atelier dimensionnement projet, le but c'est de vraiment cibler les besoins stricts et de faire une installation qui soit rentable. On parlait coût tout à l'heure. Une installation aujourd'hui, c'est pas comme si on achetait une voiture ou une paire de chaussures, hein. C'est rentable. c'est il y a une notion. C'est vrai qu'on exige aux énergies renouvelables. On a tous une fibre environnementale, et malgré tout, on exige aux énergies renouvelables, pour qu'elles existent, qu'elles soient rentables. Alors c'est un peu dur pour les énergies renouvelables, on va dire, mais la grande chance, c'est que c'est rentable. Donc ça va, on s'en sort. Alors il y a quand même des organismes comme l'ANA, par exemple, qui, pour les personnes qui ont des revenus très modestes, qui vont financer une partie. Mais il faut quand même des sous à mettre, un minimum. Et ça, je suis conscient. Il y a des choses qui se développent un peu sur le service énergétique, mais c'est le service énergétique, c'est-à-dire une forme de location de système qui fait qu'on n'est pas, on n'a pas besoin d'investir. Voilà. Mais bon. Aujourd'hui, les taux sont au plus bas qui existaient. Donc, si le banquier vous prête, ce sera toujours rentable. Ce sera une forme de location. On est d'accord, c'est une question de budget. Mais au final, quand on dit rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de payer 2 500 € par an d'énergie, on va en payer peut-être 500. Et là, là ça joue quand même sur le porte-monnaie. Donc, ça veut dire que si... Je suis pas en train de chercher à vendre un concept, c'est vraiment, j'essaie de réfléchir dans la personne qui est face à ça, qui est face à son, au fait que l'énergie, de toute façon, ça tombe comme un coup près tous les mois ou tous les 6 mois, et il faut une solution. Donc oui, on essaie d'isoler, on essaie de trouver des solutions, mais pour l'énergie, si on arrive à isoler, si on arrive à trouver le financement ou autre chose, alors il y a des aides de l'État un petit peu, il y a, voilà, bon, je sais que c'est pas conséquent, mais si on arrive à faire ce pas-là, au final, c'est nous qui sommes gagnants. De four solaire, oui. Mais pareil, un four solaire, il faut le fabriquer, il y a des matériaux, etc. Comment faire un four solaire? Alors moi, un poêle de masse. Alors, je peux vous dire comment on fait ça, four solaire, mais c'est vrai que dans nos formations, on n'en fait pas. On fait du chauffage solaire, on fait du chauffe-eau solaire, on fait des poêles bouilleurs, mais les fours solaires, c'est tout simplement une grosse caisse sur laquelle on a une vitre, et on va essayer d'amener un maximum de rayons solaires, donc on met des miroirs un petit peu sur les côtés, mais un four solaire, ça demande d'être à côté. Donc, c'est-à-dire, on doit régulièrement tourner le four pour qu'il puisse prendre le soleil, etc. Une caisse en bois, une vitre devant, et puis on va mettre notre casserole au milieu. Voilà. Un poêle de masse, c'est quoi un poêle de masse? Un poêle de masse, c'est un poêle à bois classique. On fait du feu, hein, d'accord. Mais ces fumées-là, on va pas tout de suite les envoyer aux petits oiseaux. On va les faire circuler. On va les faire bifurquer, et on va les faire circuler dans du caillou, et qui fait que ça va circuler autour de la pierre. Et ça, c'est, la pierre fait la masse. Donc la fumée circulant ici, avant de repartir, eh bien, ça va réchauffer la pierre, et ça va stocker, parce que la pierre stocke. On va revenir sur, là finalement, ça illustre ça un petit peu, la diapositive qui est là. C'est on va en venir au dimensionnement du projet. C'est qu'il faut qu'on ait des éléments pour savoir si c'est pertinent d'avoir plus un poêle de masse, un poêle bouilleur, un poêle classique, etc., etc. Par exemple, tout simplement, là, on est sur quel type de maison? Maison ancienne, maison récente? Ok, maison récente, peu d'inertie, un poêle de masse, c'est intéressant. Un poêle de masse ou un poêle bouilleur, par exemple, parce qu'un poêle bouilleur est un poêle de masse, c'est juste que la masse, elle va que circuler dedans, et ensuite elle va retourner à sa batterie d'eau chaude. Mais par exemple, si tu as un ballon de 1000 litres pour le poêle bouilleur, chauffage solaire, ou disons 500 litres, eh bien, c'est un poêle de masse de 500 kilos, en gros. Parce que la masse, elle est chauffée de la même manière. L'intérêt que tu auras si tu fonctionnes avec de l'eau, donc système type bouilleur, eh bien, c'est que tu peux faire aussi de l'eau chaude sanitaire. Et deuxièmement, c'est aussi que ton eau, ton poêle à bois, quand il tourne, qu'il fonctionne, une fois qu'il s'arrête, par exemple, il est 10h ou 11h le soir, il s'arrête, eh bien, il va rayonner pendant quelques heures, mais il ne va pas rayonner toute la nuit. Par contre, toute la chaleur qu'il avait, il va pas, tu vas la contrôler. Elle est dans une batterie d'eau chaude, qui est le ballon. Et là, cette eau chaude, tu vas pouvoir l'utiliser quand tu veux. Le matin, à 6h ou 7h du matin, hop, on a une horloge, clac, ça enclenche, ça va dans les radiateurs, par exemple. Et à ce moment-là, on va avoir une meilleure maîtrise de la chaleur en fonction des besoins. Voilà. Donc, c'est pas... Toujours vrai. Par exemple, si tu es sur du plancher chauffant, le plancher chauffant, on va jamais vraiment l'arrêter. On va peut-être baisser un peu, mais on va jamais vraiment l'arrêter, parce qu'il y a une telle inertie qu'on risque de créer des effets un petit peu montée-descente. Donc, merci de votre attention. Eh bien, merci. Bonne fin de journée.
La conférence que vous venez d'écouter a été enregistrée le dimanche 22 septembre à l'occasion des 10 ans de l'association Pollen. Merci au centre de formation ESEO qui a accepté que Plume FM enregistre et diffuse sa conférence. Merci à vous de l'avoir écoutée. Plume FM remercie également toute l'équipe de Pollen qui nous a associés à ces 10 ans. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour écouter Philippe Gumiot, architecte bioclimatique. Vous aurez ainsi l'occasion de poursuivre vos réflexions en matière d'économie d'énergie et d'habitat. On vous souhaite une très belle journée à l'écoute de nos programmes et on vous dit à très bientôt sur le 102.1 ou sur le site plumefm.net.